Bien chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes parvenus dans cette série de méditations sur le prophète Élie à la grande confrontation sur la montagne du Carmel. Confrontation avec les 450 prophètes de Baal. Les 400 prophètes d'Astarté sous la férule de Jézabel sont absents comme je l'ai souligné précédemment. Élie avait demandé au roi Achab de rassembler tous ses prophètes, mais également de convoquer tout Israël. Nous lisons dans le premier livre des rois, au chapitre 18, le verset 19. « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal » et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Les faux prophètes et les serviteurs de Baal avaient incité le peuple à adorer les idoles. C'est pourquoi Élie les convoque et va s'adresser directement à eux. Mais beaucoup d'Israélites avaient volontairement suivi la conduite inique et idolâtre des faux prophètes, et Élie voulait faire revenir le peuple d'Israël au seul vrai Dieu et pas seulement débarrasser le pays des faux prophètes. Nous savons, par la parole de Dieu, qu'Élie venait de Galaad. Je me suis demandé comment le prophète avait-il pu avoir une connaissance aussi précise de la corruption qui rongeait Israël et avait amené les jugements de Dieu sur la nation. En effet, il sait le nombre exact des prophètes de Baal, le nombre précis des prophètes d'Astarté, et il sait également quelle influence et quelle domination Jézabel exerce sur eux tous. Mes chers frères et sœurs, nous avons besoin, dans la lutte contre l'erreur, contre la corruption, contre l'apostasie, de connaître avec exactitude la situation. Aucune armée ne s'engage dans un combat sans une connaissance précise de l'ennemi. L'importance de son armée, ses armes, sa stratégie. Eh bien, il doit en être de même dans le combat spirituel. Nous ne devons pas nous permettre aucune légèreté, aucune insouciance. À ce sujet, Paul disait « Nous n'ignorons pas les desseins du diable ». Eh bien, qu'il en soit ainsi pour nous-mêmes. Le roi Achab va donc obéir aux exigences du prophète Élie. Nous lisons le verset 20. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Le décor est planté pour la grande confrontation. Parlons d'abord du besoin de cette confrontation. Élie cherche, je le répète, à ramener le peuple à l'Éternel son Dieu. Pour le prophète, les choses sont claires. La repentance du peuple, ou si vous préférez, le retour du peuple à l'Éternel, et le jugement des coupables doivent précéder la bénédiction, c'est-à-dire la venue de la pluie. Un prétendu réveil sans repentance et sans un véritable retour à Dieu n'est qu'une parodie de réveil, quand bien même les salles seraient pleines à craquer d'un peuple débordant d'une joie surfaite. Nous avons besoin d'un réveil spirituel aujourd'hui. Nous parlons souvent de réveil religieux, mais qu'est-ce que le réveil ? L'histoire d'Élie peut nous renseigner à ce sujet. Nous n'oublions pas, bien évidemment, que le pays d'Israël était privé d'eau depuis 3 années et demie. Le besoin le plus urgent, c'était donc la pluie abondante et fertilisante. Or, que constatons-nous? Une fois qu'Élie est devant les faux prophètes sur le mont Carmel, il jette un défi à ses adversaires. Et en quoi consiste ce défi? Faire tomber de l'eau tant désirée, de l'eau si nécessaire? Eh bien non. Élie, qui sait que le pays tout entier a besoin d'eau, demande du feu. Le défi lancé au faux prophète consiste donc à faire descendre le feu du ciel, le feu de Dieu, sur l'autel, et j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. N'est-ce pas, de la part du prophète, un comportement étrange? Comprenons bien l'enseignement de la parole de Dieu ici. Qu'est-ce que le réveil? De grandes églises? De superbes bâtiments avec salles de sport, salles de jeu, salles de restauration? Qu'est-ce qu'un réveil? De belles chorales? Des groupes de louanges excellemment formés? Des prédicateurs prêchant de façon très éloquente, avec un vocabulaire à la mode pour séduire la jeunesse? Des grandes campagnes d'évangélisation? Élie répond à cette question. C'est comme s'il nous disait « Vous avez besoin de feu, car c'est le feu qui apportera l'eau et non pas l'eau qui apportera le feu. » En d'autres termes, qu'il n'y ait pas de méprise. L'Église est née du Saint-Esprit et elle ne peut vivre authentiquement que par lui. Il en est de même pour l'Église d'aujourd'hui. L'Église instituée, l'Église organisée, et le grand problème, le grand besoin de l'heure reste celui d'une effusion puissante du Saint-Esprit. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui se trompent de direction. Plus exactement, ils font fausse route dans les priorités spirituelles. Bon nombre considèrent le besoin de leur nation, de leurs concitoyens. Il faut de l'eau. Entendez par là, il faut répondre aux besoins des gens. Il faut des guérisons, il faut des miracles, des délivrances, des vies changées. Alors tout cela n'est-il pas louable? Bien sûr que oui. Mais ils oublient le désir de Dieu. Un peuple purifié, consacré, sanctifié, marchant loin du péché et du monde, un peuple dépendant de son Seigneur et revêtu de la puissance de l'Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, comme au temps d'Élie, au milieu de l'apostasie présente, il faut des voix puissantes qui crient et coupent dans le vif de l'immense satisfaction et de l'illusion pernicieuse de la Laodicée contemporaine. Il faut des coups de tonnerre qui réveillent le peuple de Dieu de son sommeil de mort. Il faut, croyez-moi, un puissant mouvement du Saint-Esprit pour dénoncer les prophètes de Baal, démolir leurs autels et pour ramener le peuple de Dieu à la repentance individuelle et collective. Que de croyants aujourd'hui qui se contentent de leur forme de piété et ne veulent surtout pas qu'on les réveille. Des églises sont défaites, moribondes, inconscientes du spectacle honteux qu'elles offrent au monde, elles dorment dans le chloroforme de leurs nombreuses et diverses illusions religieuses. Alors je dis, quel contraste, quelle contradiction flagrante avec ce que Dieu a voulu et avec ce qui pourrait être encore aujourd'hui. Oui, il faut des voix de prophètes dans les églises ou hors des églises pour proclamer ce qui est le fondement, la raison d'être, l'inspiration et l'espérance de notre très sainte foi, comme le dit la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, prions pour que ces voix s'élèvent. Aussi longtemps que nous nous contentons du statu quo, aussi longtemps que nous sommes satisfaits, Dieu n'interviendra pas. Mais si nous savons nous tenir dans la présence de notre Dieu et nous y attarder pour comprendre quels sont nos besoins véritables, quels sont les besoins des églises et l'immense tragédie qui se déroule présentement et la tragédie plus grande encore qui nous attend, alors nous sortirons de la présence de Dieu forts de la vision reçue. Non seulement nous éprouverons le besoin d'expérimenter la puissance des promesses de Dieu, mais nous proclamerons qu'elles sont permanentes, qu'elles subsistent dans toute leur richesse de grâce et de vérité pour le monde agonisant et pour les hommes liés par le péché. Voilà la prédication qu'il faut aujourd'hui. Voilà ce qui va redonner la vie aux églises. Voilà ce qui va communiquer la confiance à un monde désabusé et trompé. Regardons maintenant de plus près l'état du peuple d'Israël. C'est une question du prophète qui révèle la triste situation des enfants d'Israël. Nous lisons en effet le verset 21. « Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et il dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Les religions païennes étaient toujours accommodantes et il était facile de concilier Baal et l'Éternel dans un seul système. Pour décrire ce mélange, Élie emploie une image qui embarrasse les traducteurs. « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Un mot rare est employé ici dans le texte original et qui est traduit dans la version second par « côté ».« Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Son sens, le plus probable, c'est « branche » ou « bâton », ce qui ferait traduire « jusqu'à quand sauterez-vous d'une branche sur l'autre » ou « jusqu'à quand boiterez-vous en vous appuyant sur deux bâtons ?» Quoi qu'il en soit, voilà concentré en une seule phrase ce que j'appellerais l'accusation et la sommation. L'accusation d'abord. Élie ne mâche pas ses mots. Il semble dire au peuple, vous n'avez plus aucune conviction, vous avez perdu vos repères. Finalement, vous ne savez plus où est la vérité, sur quel fondement vous appuyez. Vous êtes dans le mélange, dans l'amalgame. Vous êtes sans volonté. Vous ne savez pas vouloir. Un jour, vous saluez et servez Baal avec un certain enthousiasme, et le lendemain, vous regrettez d'avoir abandonné l'Éternel. La vérité, c'est que vous n'avez plus de force parce que vous n'avez plus de cœur. Vous êtes un peuple de boiteux, vous clochez des deux pieds. Et la preuve, c'est que, après avoir entendu ce message court et incisif, le peuple, nous dit la parole de Dieu, ne lui répondit rien. Pourquoi ? Par mépris du prophète ? Par opposition ? Je ne le crois pas. Il se tait parce qu'il ne sait plus où il en est. Est-ce l'Éternel qui est Dieu? Est-ce Baal? Après lequel des deux faut-il aller? Il ne sait pas. Il ne sait plus. Et c'est une situation catastrophique. On se demande s'il est possible que le peuple de Dieu puisse en arriver là et tombe si bas. Israël, sous le joug d'une religion idolâtre, suit Baal sans renier positivement l'Éternel. Il hésite entre les deux côtés, entre les deux camps. C'est un peuple indécis, hésitant, chancelant. À l'écoute du message d'Élie, le peuple ne dit pas un mot. Personne ne relève le défi du prophète ni ne conteste avec lui. Vous savez, à l'heure de la décision, rien de plus simple que de rester neutre, de se retrancher prudemment dans le silence. Et c'est ce qu'ils ont fait. Bon nombre de croyants dans les églises aujourd'hui ressemblent aux enfants d'Israël. Ils ne renient ni la foi, ni l'impiété, trouvant de bonnes raisons pour les deux. Ce sont des indifférents, des indécis, qui, lorsqu'un Élie leur parle, ils ne répondent pas un mot. Et pourtant, le même danger menace l'Église de Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, un autre nom pour désigner Satan? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Seconde Épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14 jusqu'au chapitre 7, verset 1er. Après l'accusation, j'en viens maintenant à la sommation. C'est comme si le prophète Élie disait « Il faut en terminer ». Avec ces perpétuelles hésitations, vous avez travaillé à votre propre ruine. Il est temps de choisir. Si Dieu est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, servez-le. Vous n'avez jamais pu et vous ne pourrez jamais servir l'un et l'autre. Ces paroles ressemblent étrangement à celles de Jésus prononcées au début de son ministère terrestre. « Nul ne peut servir deux maîtres, a-t-il dit, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24. Souvenons-nous également du message adressé à l'église de Laodicée. C'est Jésus qui parle. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse, chapitre 3, les versets 15 et 16. Lorsque Jésus rappelle le premier et le plus grand commandement de la loi, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Matthieu, chapitre 22, verset 37. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Que Dieu n'entend pas partager la place dans notre cœur avec un autre Dieu que lui, quel qu'il soit. Rappelez-vous les paroles très fortes de Jacques. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Jacques chapitre 4, les versets 4 et 5. Ô mes frères et sœurs, soyons pleinement persuadés que l'Église du réveil, l'Église qui vit un réveil ou qui vivra un réveil, est l'Église qui choisit. En son temps, Josué lançait cet appel aux enfants d'Israël. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué chapitre 24, les versets 14 et 15. Et en ce temps-là, au temps de Josué, le peuple donna une réponse. « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. » Josué chapitre 24, les versets 16 et 17. L'Église vit son Carmel aujourd'hui. Elle doit choisir. Elle doit prendre position. Elle doit se déterminer. L'Église qui verra le feu de l'Éternel descendre avec puissance est l'Église sans compromis, sans mélange, sans partage. Une Église qui ne fera pas comme le monde pour l'apprivoiser et le gagner. Une Église qui ne parlera pas de rédemption sans rédempteur, qui ne promettra pas un ciel sans repentance, qui ne proclamera pas un évangile sans la croix, ni une vie agréable à Dieu sans sainteté. Une Église qui ne considérera pas l'expérience de Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, la vie surnaturelle dans le Saint-Esprit, comme un opprobre, une Église qui n'éteindra pas le miracle sous les pieds d'explications scientifiques, qui ne remplacera pas l'onction par l'ornement de palmes académiques. Une telle Église peut s'attendre au feu de l'Éternel sur son autel. Dieu la visitera. Et Dieu agira avec puissance. Amen.